Vous allez entendre une émission spéciale consacrée à l'évocation du mouvement dit du 22 mars, créé à la faculté de Nanterre le 22 mars 1968. Notre invitée pour évoquer cette époque déjà lointaine est Isabelle Saint-Saëns. Alors Isabelle, voilà, nous sommes au 50e anniversaire de mai 68, et puis surtout l'anniversaire du mouvement du 22 mars dont tu étais partie prenante à Nanterre. Donc on va revenir précisément sur ce mouvement du 22 mars. Et comment ça s'est goupillé? D'abord, ce que tu faisais à Nanterre, toi, tu étais étudiante. Je te laisse te définir un peu à l'époque.
Moi, j'étais étudiante en sciences éco à Nanterre, donc je suis arrivée en 66, qui était la deuxième année de la fac. Et à l'époque, c'était un tout petit campus. Il y avait que trois bâtiments. Il n'y avait pas la piscine, il n'y avait pas les bâtiments de droit, il n'y avait pas les bâtiments de la bibliothèque. C'était un tout petit campus, on était tous dans les mêmes bâtiments et on n'était pas très nombreux. Je ne sais pas combien on était, mais
d'accord, il
n'y
avait
énorme.
Que l'actuel bâtiment de lettres, en fait, c'est ça?
Il y avait trois bâtiments, il y avait ABC, B...
Oui, il y avait le bâtiment de droit et le bâtiment de lettres.
Non, non, le bâtiment de droit n'existait pas.
Il n'était pas construit, d'accord.
Non, 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 il a été construit. Je pense que moi, j'étais là jusqu'en 60... Jusqu'en 69, 69-70, il a été construit à ce moment-là. Mais on était les trois bâtiments qui sont ABC, tu vois. Bon.
D'accord.
Et on était tous dans les... On n'était pas très nombreux. C'était... Il n'y avait pas de RER, bien sûr. On prenait le train à Saint-Lazare.
Oui, je m'en rappelle.
C'était assez long et on descendait à une station qui s'appelait La Folie, complexe universitaire.
Voilà, La Folie, l'ancienne gare de La Folie, en fait.
C'est ça, ouais. Et c'était entre deux bidonvilles, c'était assez loin de Nanterre, il n'y avait pas de bus. Donc, ce n'était pas du tout comme les gens du quartier latin qui, s'ils avaient envie d'aller prendre un verre ou aller au cinéma, ce n'était pas un problème. Nous, on restait sur Nanterre et je pense que c'est aussi ça, cette espèce de mélange et puis de rester ensemble, et pas uniquement parce qu'on y était obligé, parce qu'on avait plein de discussions, il y avait beaucoup de, il y avait énormément de mouvements politiques qui étaient représentés. Bon, je parlerai pas des mouvements de droite comme le GUD ou Occident, je sais pas s'il y avait, mais t'avais toutes les variétés de mouvements trotskistes et de mouvements maoïstes, des anars, les étudiants du PSU, l'UEC bien sûr, mais enfin on se fritait plutôt avec eux. Enfin, il y avait énormément de choses et tout ça s'engueulait et en même temps faisait des choses ensemble.
Là, tu parles dès 66, dès ton arrivée à la fac, il y avait cette ambiance comme ça un peu militante.
Absolument. On faisait des choses ensemble ou on faisait pas des choses ensemble. Enfin, il y avait des, par exemple, sur le Vietnam, les Mao et les trotskistes n'étaient pas
unifiés. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
N'étaient pas unifiés, mais enfin bon, c'était pas non plus très très grave.
Parle-nous un peu de l'ouverture vers la ville, puisque Nanterre était une nouvelle expérience.
Eh ben, l'ouverture vers la ville, on n'avait pas grand-chose. Hein. On allait de temps en temps distribuer des tracts devant les lycées ou les collèges, mais on était plutôt, et même, justement, j'en parlais avec Mognis Abdallah, on n'était même pas beaucoup sur les bidonvilles.
Sur les bidonvilles,
ça a changé après.
Oui, dès 69, je pense que notamment les Mao, je me rappelle,
les Mao, on en fait même un petit peu trop, tu vois, là.
Oui.
Allant dans les bidonvilles avec des mômes sur les épaules en disant « Vive la juste lutte du peuple palestinien ». Enfin bon, leur connerie habituelle. Pas sur la juste lutte du peuple palestinien, mais sur l'instrumentation, quoi. Et puis, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'on était quand même très, très attentifs, quels que soient la tendance à laquelle on appartenait. On était très attentifs à la fois aux luttes ouvrières, à ce qui s'était passé à la Radio Aceta, à la Savième, à Caen, etc., et à l'international, donc essentiellement le Vietnam, plus tard l'Amérique latine, pas du tout, très très peu, même si on savait à l'Afrique du Nord, ça c'était plutôt la génération d'avant, mais ça c'est dû à l'impensée coloniale française, je pense.
Tout à fait.
Et non plus qu'à ce qui se passe, un tout petit peu à ce qui se passait en Afrique, mais pas vraiment.
Pas vraiment. Donc pour revenir donc à ces années-là, on parle aujourd'hui, enfin l'historiographie officielle qu'il faut critiquer évidemment, mais elle dit que 68 est un mouvement qui aurait démarré à Nanterre, Est-ce que ça paraît aujourd'hui, disons qu'il y avait des prémices de toute façon, c'était pas sui generis comme ça.
Oui, puis il se passait des choses ailleurs. Enfin, je veux dire, il y avait des grèves aussi. Moi, je crois beaucoup quand même au rôle des grèves ouvrières. Hein,
celle de 67, notamment, tu parlais de la Rodia et tout ça.
Il y a la Rodia, il y a eu aussi une grève que moi j'aime bien parce que c'est une grève de femmes où il y avait bon des ouvrières et puis des ouvrières établies depuis les mouvements Mao, mais qui étaient à Vergès dans l'usine Perrier. Ça, c'était en 67, je crois. Enfin, il y avait des choses super importantes, tu vois. Alors, Nanterre, peut-être par rapport à Paris, enfin, le fait que quand Grappin a fermé la fac fin avril, on est allé à la Sorbonne et puis les flics sont intervenus.
Grappin, c'est le recteur de la fac.
C'est Grappin, oui, c'est ça, le recteur de Nanterre qui en a eu marre. Enfin, non, c'est une histoire assez rigolote, je te la raconter et puis tu la couperas si tu veux. Donc, entre le 22 mars et la fin du mois d'avril, il y avait plus court, il y avait quand même beaucoup d'assistants qui nous soutenaient. Par exemple, les assistants d'Henri Lefebvre, qui étaient Baudrillard, qui n'avait pas encore tourné Réac, et Lyotard. Et donc, on avait organisé, je ne sais plus exactement combien il y en avait, mais le mouvement du 22 mars avait décidé de s'organiser en plusieurs commissions pour discuter de plusieurs sujets, l'éducation, les luttes anticapitalistes, l'international, l'anti-impérialisme, l'art, la sexualité, etc. Bon, et donc on était tous les jours à Nanterre à discuter. Et puis on avait décidé de faire justement, tout mouvement confondu, un grand meeting de soutien au Vietnam. Et donc les FAF avaient annoncé qu'ils viendraient nous casser la gueule. Bon, donc le matin ça c'était toute fin avril, et le matin du meeting en question, on était là, on avait un peu la trouille, et on voit arriver, non pas des FAF, mais une trentaine de Mao, comme on savait que c'était des Mao parce qu'ils étaient en costume Mao avec la casquette et le petit livre rouge à la main, que des mecs, en tête, comment il s'appelle, Robert Linhart, quelques pas derrière lui, Gérard Miller, mais surtout pas le grand frère, qui lui n'a jamais daigné venir voir ce qui se passait, et ils nous ont expliqué qu'ils allaient défendre le campus en utilisant les plans de la glorieuse victoire du glorieux général Giap à la bataille de je sais pas trop quoi au Vietnam. Donc il y en a la moitié qui se sont mis à creuser des tranchées, l'autre moitié qui s'est mis sur les toits avec des frondes, et nous on était partagés entre l'hilarité et la terreur, quoi. Et c'est là que le doyen a dit ça suffit ces conneries, je ferme la fac. Et donc le lendemain, on était à la Sorbonne, enfin moi j'y étais pas, mais ils sont allés à la Sorbonne et c'est là que tout s'est un peu coagulé. Mais je pense qu'il y avait d'autres choses dans d'autres facs, hein. Peut-être parce que c'était une fac proche de Paris, bon, avec des profs un peu prestigieux, qui avaient eu les situationnistes qui avaient amené de Strasbourg, qui avaient amené leur célèbre brochure de la misère en milieu étudiant, voilà. Donc effectivement, ça s'est coagulé avec une espèce de occupation du conseil de fac le 22 mars sur un thème enfin qui n'était pas spécialement anticapitaliste et anti-impérialiste, hein, qui était de libérer Xavier Langlade qui avait été arrêté après l'attaque contre le local de l'American Express à Opéra, où Opéra, il avait été. Ouais. On était relativement nombreux, je ne sais pas, une cinquantaine, une centaine, mais enfin, on nous a fait courir, sortir du métro. Il y en a quelques-uns qui ont jeté des caillasses, et puis on est rentré dans le métro et rentré à Nanterre, et le soir même, Xavier a été arrêté. Mais c'était donc pour réclamer qu'il soit.
Qu'il soit libéré.
C'était pas un sujet, c'était tout à fait normal, mais c'était pas un sujet plus vaste.
Tout à fait.
Alors oui, moi je veux bien que ça. Enfin. Dire que Nanterre a été l'étincelle qui met le feu à la plaine, c'est un peu comme de présenter ça uniquement comme un mouvement de culture ou un mouvement de libération ou un mouvement universitaire, quoi. Il y avait quand même, c'était un moment de très très forte grève, et puis c'était un moment aussi très international. Enfin, moi j'y étais pas allée, mais il y a des copains qui en février, je crois que c'était en février 68, sont allés il y a eu une grosse manifestation qui a été appelée à Berlin, où ils sont allés, Et c'était toute la, justement l'occasion de parler des luttes anti-impérialistes, de Cuba, de, etc.
Voilà. D'accord. Revenons à Nanterre pour ouais. le 22 mars. La création du 22 mars, du mouvement en tant que tel, répond à quelle sollicitation du point de vue militant et tout ça ? Comment ça se passe ?
Bah, je pense qu'on avait... concrètement, il y a eu une AG l'après-midi dans l'amphi du bâtiment B en disant il faut réagir contre l'arrestation de Xavier Lenglade. Et on décide l'occupation du conseil de fac le soir, donc on y monte. C'était pas plus fermé que ça. Je crois me souvenir qu'il y avait même un concert dans un amphi et on a profité soit du début, soit de la fin, soit de l'entracte pour expliquer ce qu'on faisait. Et puis ensuite, on est monté. Et c'est là où on a discuté une partie de l'année en disant il faut monter justement une espèce. Alors, moi, c'est ça qui m'a toujours plu, parce que j'ai jamais aimé les organisations, donc j'ai jamais participé à un groupe proprement dit. Et c'est ça qui me plaît aussi, par exemple, qui me plaît chez les Espagnols, mais aussi dans des alliances qu'on a pu trouver entre ACT UP, Logisti, AC, le MIB, etc., à la fin des années 90, c'est que c'était une espèce d'alliance horizontale, sans petit chef. Enfin, bon, même si Danny Cohn-Bendit, certains considéraient, et la presse en particulier, parce qu'il faut toujours des chefs, il faut toujours des gens qui parlent bien, puis c'était un mec bien à l'époque. Hein.
Oui. Bon.
Mais c'était pas du tout un mouvement, enfin, structuré, etc., et où on pouvait discuter, où il pouvait y avoir du conflit, et moi je pense que le conflit c'est absolument nécessaire, tu vois.
La contradiction.
Si on s'engueule, à condition que ça soit du conflit, on s'engueule, on s'écharpe parce qu'on tient à des choses. C'est pas pour montrer celui qui a la plus grosse ou la plus longue et celui qui a la meilleure pensée. Enfin bon, c'est-à-dire que, y compris les Mao à Nanterre, et Dieu sait qu'ils n'étaient pas drôles, ont réussi à se couler dans ce moule-là, alors que leur fonctionnement était extrêmement bureaucratique, tu vois. Et à la fois arriver à faire du conflit sans que ça fasse exploser, et arriver à considérer aussi que le compromis, c'est pas la compromission. Que le compromis, c'est parce que on est d'accord sur 3-4 choses absolument nécessaires, et que si on n'est pas d'accord sur ces 3-4 choses, bon, bah, effectivement, on n'a rien à faire ensemble. Sur le reste, si on n'est pas d'accord, c'est pas essentiel ou c'est pas urgent, on arrive à un compromis ou on y revient plus tard. Et c'est comme ça que ça fonctionnait un peu sur, bon, différentes questions, donc sur la lutte des classes, sur le capitalisme, sur l'économie, l'éducation, sur l'international, le colonialisme, etc. Enfin, il y avait quelques... Bon,
est-ce que le féminisme était déjà une donnée présente
Alors,
au 22 mars ?
Alors, moi, je dirais que non. Il y avait eu les... Bon, parce qu'on dit, mais quand même, il y a eu cette histoire de mouvement pour demander que les garçons puissent aller dans les bâtiments des filles à la cité U.
À la cité U.
Moi, je dirais que oui. Alors, bon, on peut relier ça, effectivement, à la sexualité, moi je pense que le féminisme, non, c'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé dans les années 70-71, c'est arrivé entre autres, c'est ça qui est tellement triste aussi, par des mouvements qui sont nés, une des composantes des mouvements féministes qui est né à l'intérieur de Vive la Révolution, dont le petit chef était Roland Castro à Vincennes. Et c'est encore plus triste de voir que maintenant, c'est pas tellement de voir qu'il est devenu socialo,
il sait même plus où il est là, de toute façon.
Il est au Printemps Républicain, enfin je crois, et il se fait interviewer par Elisabeth Lévy dans Causeur.
Tout à fait.
Donc, ça va, quoi. Mais en tout cas, c'est vers 70-71.
Oui.
L'influence de ce qui se passait aux États-Unis, il y a pas mal de gens, des filles en particulier, qui sont allées aux États-Unis à l'été 69. Il n'y avait pas... Enfin, en tout cas, si mes souvenirs sont bons, les premiers soubresauts féministes, c'est des filles de la génération d'avant. C'est des filles qui sont allées déposer une germe sous l'Arc de Triomphe pour la femme du soldat inconnu qui est encore plus un. C'était quand même, tu vois, Christiane Rochefort, Christine Delphi, je crois, enfin des filles qui étaient largement trentenaires ou quadragénaires, tu vois, et qui étaient des rebelles dans les mouvements féministes qui étaient bien 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 sage à l'époque. Et donc, non, moi j'en ai pas mal parlé avec les copines, d'autant plus qu'on a été pas mal sollicité justement là-dessus. Mais est-ce que vous étiez déjà féministe avant l'heure ou féministe à Nanterre? Et non, on n'avait pas, enfin, de temps en temps on râlait, on gueulait, on insultait les mecs, mais il n'y avait pas vraiment de prise en compte de ce que ça voulait dire que d'être féministe, de l'oppression, du patriarcat, etc. Okay. Ou alors des choses très très savantes. Mais non, c'est un peu plus tard.
Ok, revenons à Nanterre au 22 mars. Donc, quelle mission s'était donnée le 22 mars? Il a apparu un peu comme quelque chose, quand on regarde avec la longue histoire, bien sûr, comme quelque chose de nouveau. Tu parlais d'une fédération, de groupe,
bah, oui,
ou d'individu. Ouais. Quelle mission s'est donnée cet organisme
On ne s'est pas vraiment donné de mission. Enfin, on croyait, bien sûr, à la révolution. En plus, après, quand il y a eu la grève... quasi-général, on allait, même si on n'était plus à Nanterre, on allait dans les usines. Moi, ce qui me frappe aussi, là, je fais un aparté là,
vas-y,
c'est qu'à l'époque, il y avait dans Paris deux grosses usines. Tu avais la Régie Renault
à Billancourt.
À Billancourt, enfin, dans l'île Seguin, oui. Et tu avais Citroën, là où il y a maintenant le parc André Citroën.
Tout à fait. Hein,
ouais. Et à Ballard, enfin. Oui. Et on est allé plusieurs. Bon, ben, il y a eu des histoires chez Renault, il y a eu, c'est là que Pierre Auvernet a été tué, mais on est allé plusieurs fois aussi faire des distributions et discuter et s'engueuler avec la CGT chez Citroën. Donc les missions, ben non, c'était de profiter justement de ce climat où on est de liberté pour discuter et pour faire des liens et pour faire connaître. Et puis il y avait aussi des liens avec les mouvements à l'étranger, indépendamment de ce que je te disais sur l'Allemagne. Moi, je suis allée en juin à Venise pour discuter avec les camarades qui occupaient la fac de lettres.
Tout à fait, oui.
Et là aussi, il y avait déjà un peu toutes les tendances. Enfin, c'était moins Mao trotskiste, c'était des gens comme Potere Operaio, etc.
Les opéraïstes italiens.
Les Italiens, oui, à Venise. Donc la mission du 22 mars, je ne sais pas s'il y en avait vraiment une, mais c'était en tout cas de discuter, d'élargir et d'essayer effectivement de profiter de ce climat de grève générale pour faire des liaisons le plus possible, quoi.
D'accord.
Il tombe par terre, c'est la faute à Nanterre, le nez dans le ruisseau. C'est la faute à Grimaud, on m'a foutu en tôle. C'est la faute à De Gaulle, on m'a tout amoché. C'est la faute à Fouché. On a marre du capitalisme, on a marre du paternalisme, on a marre du gâtisme. Les frontières, on s'en fout, con bendit avec nous. Nous sommes tous des juifs allemands. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Nanterre. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Grimaud. Devenus un art, c'est la faute à Gessmar. Si j'ai eu mon bachot, c'est bien grâce à Sauvageot. Si je me suis fait plein d'amis, c'est grâce à Cohn-Bendit. Si je me suis fait des ennemis, c'est aussi grâce à lui. Y'en a marre du capitalisme, y'en a marre du paternalisme, y'en a marre.
Interdit d'interdire au prenant nos désirs pour des réalités. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Nanterre, le nez dans le ruisseau.
Vous entendez une émission spéciale consacrée à l'évocation du mouvement dit du 22 mars, créé à la faculté de Nanterre le 22 mars 68. Notre invitée, pour évoquer cette époque déjà lointaine, est Isabelle Saint-Saëns.
Revenons un peu à la structuration du mouvement. Tu parlais justement de l'aspect mouvementiste du 22 mars. Ça paraissait en contradiction parce qu'une des questions principales qui se posera et qu'on posera en mai, ici, c'est de savoir justement pourquoi, après un mouvement qui avait l'air un peu spontané, ouvert, assez large et bienveillant, y compris pour les contradictions, comme tu le, comme tu le rappelais là, comment se fait-il, et c'est une question qu'on posera, mais que tout ça soit retombé sur des dispositifs politiques déjà identifiés comme étant ceux, grosso modo, d'octobre 17, quelles que soient les chapelles, qui se sont mises en place après.
C'est le moment où naît, il y avait le JCML, mais il y a la naissance de la gauche prolétarienne, etc. Enfin, avec des trucs en plus. Moi, je me souviens à l'époque, mais j'étais pas seule, mais beaucoup les filles. On s'était beaucoup engueulé avec Jesmar, Julie, etc., qu'on aimait bien, hein, qui n'était pas au 22 mars, mais enfin, comme si, quoi, ils sont arrivés, ils étaient à Nanterre, etc., parce qu'ils étaient allés voir Tillon et qu'ils étaient revenus en disant ça y est, nous sommes les nouveaux partisans. Donc, dans l'idée que si tu plaques le passé sur le présent, tu ne comprends ni le passé ni le présent. Enfin bon.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, évidemment. Et ça pose question même aujourd'hui, parce qu'on a toujours des effets de retour.
Absolument, bien qu'il y a eu, je sais pas, il y a eu un espèce de... Moi, j'ai passé les années 70... pas dans un état d'esprit très joyeux, j'étais plutôt déprimée, j'ai pas mal picolé, après je m'en suis tirée, mais j'ai l'impression que il y a eu un retour justement. Alors, est-ce que c'était parce que les choses avaient pas été assez vécues ou assez formulées, ou parce qu'on voulait, comme on dit les copains lycéens après, tout de suite, ce qui est très bien. Mais il y a aussi des choses qui ne peuvent pas arriver tout de suite. Et là-dessus, si tu veux, en réfléchissant un peu avec justement le côté mouvementiste, par exemple, tel qu'il s'est manifesté depuis très très longtemps en Espagne, même si actuellement la situation n'est pas la même qu'en 2011.
Oui.
Mais quand même.
Ou en Italie, même dans les années 70.
Ou même en Italie, oui. Mais en Espagne, c'est quand même très très. Ça a été très magnifique et ça continue à être quand même très très important. Il y a plusieurs choses. C'est mon analyse à moi, hein, je la partage, etc. Mais bon, d'une part, la France est un État centralisé, enfin jacobin, tu vois, à la différence de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie, qui sont des États plus fédéraux. Enfin bon. D'autre part, je pense aussi, donc, avec une centralisation des structures de pouvoir de l'État, etc. D'autre part, je pense aussi que la France a eu la malchance, mais c'est dû aussi à ce côté centralisé, d'avoir le parti, on est quand même dans les années 60, hein, on sort de la guerre, d'avoir le parti communiste le plus bête, le plus puissant et le plus stalinien de toute l'Europe occidentale.
Oui.
Avec une, tu vois, et que les premiers mouvements d'extrême-gauche à se créer au début des années 60. Je ne parle pas des spartakistes, je ne parle pas des socialistes ou barbaries, mais je parle des trotskistes et de l'AJCR et de l'UJCML, sont nés de scissions de l'Union des étudiants communistes. Donc, c'est des gens qui étaient déjà, tu vois...
Qui étaient déjà dans le moule, on pourrait dire.
Qui étaient déjà dans le moule et qui n'ont pas... Bon, alors, chez les trotskistes, il y a eu Ben Saïd, mais bon... Et donc, je pense que tout ce qui s'est passé après... 68, et puis ce qui s'est passé après dans les années 70, les mouvements de femmes, et pas le mouvement des femmes, hein, mais les, justement, où il y en avait plein, y compris la tendance la plus stalinienne qui était le MLF déposé, enfin psychépo d'Antoinette Fouque, mais plein de choses, les mouvements de jeunes, tout justement, enfin, qui est assez passionnant, et d'ailleurs tous les numéros de tout sont en ligne, c'est assez incroyable. Le phare, les homosexuels, Et puis ensuite, le groupement d'information sur les prisons de Foucault, ce qui s'est passé à la Borde, enfin, en antipsychiatrie, etc., oui. qui a fleuri pendant toutes les années 70. Mais il y a eu aussi un espèce de rétrécissement avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, avec le fait aussi, sans vouloir personnaliser, mais que beaucoup de gens qui avaient servi de petits chefs dans les mouvements, Jesmar, Julie, Castro, etc., se sont rapprochés, se sont rapprochés du pouvoir et sont devenus des hiérarches, qui étaient déjà un petit peu avant aussi.
Hein. Oui, ils ont poursuivi leur carrière, mais 68 a été une petite parenthèse pour eux, je pense.
La gauche prolétarienne, moi j'ai toujours détesté les Mao, puis il n'y a qu'à voir ceux qui restent.
Sois pas trop dur parce que j'en étais, mais bon.
D'accord, oui, mais attends, il y a toujours, tu vois, mais par exemple, quand tu vois ce qui est devenu Jacques-Alain Miller, de petit chef de l'UJCML à petit chef lacanien.
Mais ça, je pense que ça fait pas tellement de différence dans toutes les organisations.
Ça fait pas de différence, non. Mais quand tu penses aussi que Blandine Criégel et son mari Philippe Barret, à l'époque, en 68, qui étaient parmi les petits chefs de l'UJCML, alors que tout le monde boycottait les examens, ont quand même passé la grecque de philo parce que ça peut toujours servir. Bon, ça va, quoi.
Oui, c'est vrai.
Non, je pense que... Oui, voilà, c'est... Enfin, j'ai pas d'explication, mais je pense qu'il y a eu une espèce de... Il y a eu une espèce de gueule de bois qui n'a pensé comme réponse à, bon, ben voilà, le pouvoir est revenu, De Gaulle est revenu de Baden-Baden, on a, comment il s'appelait, Marcelin, qui n'était pas, bon, ouais. qui n'était pas pire que ne l'a été Poniatowski après, qui n'a pas été pire
que Sarkozy. Je pense que même si ça avait été Poniatowski, ça aurait été pire, hein, je pense. Parce que
Poniatowski je veux dire, c'est un peu dans la...
Tout à fait.
Tu vois, Cazeneuve, enfin bon, Cazeneuve, et puis maintenant, comment il s'appelle ?
Le maire de Lyon,
Gérard Collomb, je pense qu'effectivement, Poniatowski, ça aurait été pire. Mais face à ça, la réponse était, on va structurer des choses très structurées, et ça n'a pas marché.
Oui, ça n'a pas marché du tout, même, ça a été contre-productif.
Ça n'a pas marché, alors qu'il aurait fallu avoir des choses... plus clandestine, plus modeste, ou pas tellement plus clandestine, développer mieux tout ce qui s'est passé au niveau du local. Et ça peut avoir des conséquences. Enfin, par exemple, j'ai un copain, je te le fais rencontrer, parce qu'il vient bientôt.
D'accord.
Un philosophe activiste espagnol madrilène qui s'appelle Amador Fernandez Savater, qui est un peu plus jeune que nous, mais qui connaît bien les gens du 22 mars, enfin bon, etc. Mm-hmm. Et il a écrit un papier qui a été traduit dans Mediapart, qui dit pourquoi au moment des attentats à la gare d'Atocha en 2004, pourquoi l'Espagne le gouvernement espagnol n'a pas réagi en faisant un Patriot Act comme les États-Unis en 2001. Mm-hmm. Et il dit parce que, d'une part, il y a depuis très longtemps... un mouvement local qui avait un mouvement aussi très fort contre l'intervention en Irak.
Oui, tout à fait.
Et que tout ça a fait masse face au... Bon, en plus, le gouvernement a fait des conneries. Ils ont dit que c'était les Basques.
Oui, ils ont délié.
Bon, etc. Mais le fait qu'il y ait en face un mouvement implanté qui puisse compter justement sur le local, sur les quartiers, sur la situation, c'est tout ce qu'on n'avait pas, de façon assez forte en France. Voilà. Bien. C'est mon explication. Je pense qu'elle n'est pas suffisante.
Je pense que ça sera en partie l'œuvre de notre débat en mai.
Hein, ouais.
De savoir, d'essayer de comprendre pourquoi justement on en est revenu à des formations politiques très autoritaires et très hiérarchisées finalement dans l'après 68, qui malgré leurs différences politiques exprimaient tous la même stature, on voudrait dire la même constitution politique, quoi. C'est un peu difficile
et
à comprendre.
De temps en temps ça éclate, justement. Je te disais tout à l'heure qu'il y a eu 3-4 ans bizarre et assez magique entre 97 et 2000 où tu avais Act Up, Logisti, le MIB, assez aussi, qui travaillaient ensemble en disant si on travaille pour les droits des étrangers, il faut s'occuper de leurs conditions de santé, de logement, de travail. Et les copains d'AC disaient la même chose et Act Up disait la même chose. Et ça ça a pas duré très très longtemps, mais c'était aussi un peu ce genre de choses. Essayer d'avoir une vision à la fois plus locale et plus globale.
Ok. Bah. Revenons un peu.
Ouais.
Il y a eu du travail fait en radio déjà depuis quelques jours. J'écoute un peu ce que fait France Inter et tout ça. On a entendu des choses tout à fait étonnantes. Cette espèce de silence gêné d'Alain Gesmard, par exemple, qui ne va pas bien ces dernières années pour des raisons personnelles, je pense.
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
Moi, je l'ai croisé il y a quelques années à l'enterrement d'un des dirigeants Mao sur Paris. Il était presque en état de prostration. Il a parlé avec personne des gens qui étaient là, ni de l'époque, ni tout ça. Et puis là, il dit quasiment rien, quoi. Un peu comme Dany, hein, qui dit rien non plus. Qui, quelque part, vient se plaindre du fait qu'on lui rappelle qu'il a 73 ans et que c'est difficile pour lui. On comprend bien que c'est difficile pour lui, mais enfin... évidemment,
c'est difficile pour tout le monde. Hein,
voilà, c'est difficile pour tous les gens qui ont traversé cette époque. Ouais. Mais en fait, ils ne disent rien. C'est marrant parce que les médias attendaient beaucoup, je pense, d'eux.
Ouais.
Et eux ne disent rien sur 68, comme si ça les gênait quelque part aux entournures de revenir sur cette période. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ton âge?
Parce que c'est des gens qui ont fait d'autres choix, j'imagine. Qui ont décidé, Dany, il est passé à Francfort, il est passé au Parlement européen. Moi, je me souviens que j'avais été un peu choquée, enfin très choquée même, en 2002, quand Sarkozy et son homologue anglais ont décidé de fermer le camp de Sangatte à côté de Calais, et Dany était interviewé, et il disait « Oui, certes, les réfugiés, mais en tant qu'élu municipal, il était donc adjoint à la ville de Francfort à ce moment-là, je sais qu'il faut écouter les concitoyens et leur inquiétude. » Enfin bon, tu vois, c'est pas possible.
Oui, bien sûr, bien entendu.
Et en même temps, il pouvait défendre d'autres choses. Je sais qu'il était là quand on a eu la première conf organisée par Migre Europe au Parlement européen. On était invité par Hélène Flautre, qui était députée verte. Mmh. Et il est venu introduire une séance et il était... c'était autre chose. J'espère. Enfin, Alain, moi, c'est quelqu'un que j'ai bien aimé aussi, tu vois.
Moi, je l'ai connu en tant que dirigeant des Mao et de mon secteur, puisque j'étais moi très jeune à l'époque, donc il y avait un secteur de la jeunesse chez les Mao. C'était le moins pénible au niveau affectif et au niveau personnel de l'ensemble de cette direction.
Je l'avais connu un peu avant, au 22 mars à Nanterre, parce qu'à l'époque... Il était secrétaire général du SNESUP.
Oui, tout à fait.
Et je ne sais plus après quelle manifestation, mais on était encore à Nanterre, donc c'était en avril. Et il y a eu une réunion le soir entre qui voulait du 22 mars. Hein, ce n'était pas les chefs, Dany, etc. Mm-hmm. Qui voulait. Et Alain, dans le local de l'Algérie, enfin de recherche, qui était la revue de Guattari.
Oui, tout à fait.
Où il y avait Anne Kérien, qui nous avait rejoint à Nanterre d'ailleurs, pour débriefer la manif, et Alain était presque en larmes en disant « Mais on n'a rien compris à votre mouvement, on réagit comme des bureaucrates, c'est épouvantable, il faut qu'on change, il faut qu'on travaille ensemble sur un pied d'égalité, etc. » Bon, après, je pense que son passage... comme petit chef de l'AGP, il ne lui a pas fait du bien. Mais
oui, surtout qu'il n'était pas le grand chef. Il écoutait, il y avait un théoricien au-dessus de lui qui prenait la décision quasiment en permanence tout seul. Enfin, faut rappeler que ce mouvement était tellement démocratique que de toute façon, ça n'y changeait pas grand-chose puisqu'il n'y a que 5 personnes qui ont dirigé l'AGP pendant toute son existence et qui n'ont jamais été élus par personne, d'ailleurs.
Je me souviens juste qu'au moment de son procès, c'était quoi, 73-74, il y avait des graphes partout dans Paris qui disaient « dans Gesmard résistance, dans
c'était 71.
Insurgé, pas un flic ne restera debout ».
Oui, oui.
Voilà, c'était très...
Oui, c'est ça. Pour monter le niveau, ils étaient là, mais pour l'assumer après, ça a été beaucoup plus compliqué.